La première question qu'on voulait savoir, c'était un peu sur vous, sur votre parcours, votre marque. Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à créer des produits naturels? Et oui, bon, c'est plusieurs questions en une, mais on est intéressé de savoir par quoi ça a commencé, en fait, tout ça.
Alors, je vais commencer et Gwen prendra le relais. En fait, j'ai des enfants qui ont pas mal d'allergies et alimentaires et de contact. Et j'avais des gros soucis avec les produits que je leur mettais sur le corps pour les laver ou avec les crèmes, en fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, moi qui ne viens pas du tout en fait, de ce milieu-là, à m'intéresser en fait à la cosmétique naturelle. Et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir certains résultats et surtout que. On me conseillait une crème, par exemple, typiquement pour ma fille qui était allergique à la protéine de lait. Et on me conseillait une crème dont le liant pour son eczéma était de la protéine de lait. Donc, en fait, je ne faisais qu'aggraver en fait, son allergie sans le savoir, en fait, sans m'en rendre compte. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein d'allergènes en fait, dans beaucoup de produits pharmaceutiques qu'on nous proposait et que ce n'était pas forcément mis en avant tout de suite. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Mais en fait, une marque de cosmétiques, ça ne se lance pas comme ça sur le marché. Moi, ne venant pas du tout de la chimie, de la formulation ou n'étant pas du tout scientifique, je ne pouvais pas m'inventer chef de labo et bah, tiens, je vais faire un petit produit puis je vais aller le vendre. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement normé. Donc, il me fallait que je m'associe avec quelqu'un qui ait les diplômes nécessaires et les compétences nécessaires. Et en fait, c'est une personne qu'on connaissait qui nous a mis toutes les deux en relation puisque Gwen a donc un profil scientifique que je n'ai pas du tout et elle est tout à fait capable de créer, elle, et de mettre. Enfin, vous en dira plus, mais de faire tout ce qui est dossier réglementaire, formulation, etc. Voilà, c'est parti en fait de là, pour moi.
Ok, donc du coup, Gwen, vous êtes un peu la chimiste du groupe ou
Pas chimiste même.
Exactement, c'est tout à fait ça. Hein. C'est en fait, je suis chimiste formulatrice donc de métier et d'expérience. Et effectivement, donc, moi j'ai pas mal d'allergies et j'avais envie de changer. Je voulais plus travailler pour des grands groupes ou voilà, faire ce que je faisais. Et puis effectivement, donc je me suis dit tiens, je voudrais faire quelque chose dans le naturel, mais j'avais pas de projet particulier. Effectivement, la cosmétique m'intéressait beaucoup, mais voilà, j'avais pas de projet concret, pas comme Fanny. Et c'est vrai, quand on m'a présenté Fanny, en fait, ça a été. C'est vrai que des fois, on dit un peu, c'est pas comme un coup de foudre, mais presque, parce que tout de suite, ça a matché. On avait beaucoup de points communs. Au final, ce premier rendez-vous, de parler du projet de Fanny, ça a vite dérivé sur mais comment tu cuisines? Et ah, toi aussi, t'as ce bouquin, t'as vu cette recette, elle est sympa. Et voilà en fait. Et du coup, finalement, ça a tout de suite matché entre nous. Et puis, de fil en aiguille, on a décidé de s'associer. Et c'est vrai que voilà, on est tout à fait complémentaires. Fanny, c'est vraiment celle qui va faire toute la gestion, l'administratrice en fait, finalement, l'entreprise. Voilà, celle qui a tout ce poste-là, finalement, de présidence et de gestion totale, finalement, de l'entreprise. Et du coup, moi, c'est plus sur la partie technique où, effectivement, je vais gérer les productions, les formulations et toute la partie réglementaire.
Ok, d'accord. Du coup, justement, vous parlez des cosmétiques et tout. Je pense qu'on a des auditeurs qui ne vont pas forcément savoir ce que c'est en fait la slow cosmétique. Est-ce que vous pourriez essayer de définir en quelques mots enfin, ce que vous faites enfin, je veux dire, votre marque en général, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous pouvez nous dire ça en deux mots?
Alors nous, on cherche avant tout, Gwen cherche avant tout à formuler en fait un cosmétique avec le moins d'ingrédients possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de parfum par exemple, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'huile essentielle, mais elle cherche vraiment à avoir un produit brut, efficace, qui marche avec moins de 10 ingrédients. Après, je
Ok.
pense que la slow cosmétique, elle saura plus le définir que moi ce que c'est exactement.
Alors, la slow cosmétique, en fait, c'est une association qui vient donc de Julien Caillebec qui s'est inspiré de la slow food. Donc, c'est belge, c'est une association. Et donc, il y a pour vocation d'avoir quatre grands piliers dans l'association. Donc, il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs en termes de communication marketing, c'est-à-dire qu'on ne doit pas marketer comme va le faire par exemple un Dove ou un L'Oréal. On doit avoir quelque chose de slow et de cohérent finalement avec les valeurs qu'on prône. Donc voilà, donc déjà il y a ça, pas de greenwashing bien évidemment. Il y a aussi le choix des ingrédients, donc essayer bien sûr, c'est toujours pareil, c'est compliqué, mais de choisir des choses un petit peu plus pures et de respecter les ingrédients et de les choisir en conscience. voilà, d'avoir des formules qui respectent à peu près un cahier des charges. Donc, on n'est pas forcément sur le même cahier des charges que le bio, mais c'est sur un cahier des charges quand même aussi un peu éthique, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre un beurre de karité où justement c'est des femmes qui sont très mal payées en Afrique, par exemple. On va plutôt choisir du commerce équitable, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'ils étudient, en fait, c'est un jury. Donc, il y a des experts, il y a aussi beaucoup de bénévoles dans l'association. Il n'y a aucune marque qui peut être dans les jurys d'examen pour ne pas justement fauter l'entrée finalement, enfin voilà, qui est un blocage ou au contraire plutôt un appui un petit peu trop insistant. Et donc du coup finalement c'est ce jury d'experts et de bénévoles qui va statuer si la formule répond aux critères, si toutes les informations réglementaires sont bien à jour aussi. On va nous demander par exemple de justifier le numéro d'entrée au portail européen du cosmétique pour bien justifier que la mise sur le marché a été faite avant, qu'on répond à certaines autres normes réglementaires aussi par rapport à la norme européenne. Voilà, ça va être tout un tas de choses comme ça, de justifier aussi un packaging quand même un petit peu éco-conçu au minimum, de pas non plus voilà, faire dans le cracra, comme dit souvent Fanny. Pique ta formule. Donc voilà, en gros, pour pas rentrer non plus trop dans le détail ou que ça devienne un petit peu long, voilà, en gros, ce qu'il y a la slow cosmétique.
Ok, bah merci, c'est super intéressant. Mais du coup, justement, on se demandait comment on choisit la matière première. Enfin, c'est pas compliqué de trouver des fournisseurs qui répondent à tous ces critères en même temps. Enfin, est-ce que vous allez à leur rencontre? Est-ce que vous les testez avant? Enfin, est-ce qu'il y a une façon de faire particulière?
Je pense que je... Pardon, vas-y.
Non, mais j'allais justement dire que tu avais un cahier des charges, toi. Elle a un cahier des charges extrêmement précis sur déjà les matières premières qu'elle souhaite utiliser. Et après, c'est effectivement, après, c'est au niveau éthique. On pourrait des fois aller au plus simple et au moins cher. Je vais citer juste un ingrédient qu'on utilise, nous, beaucoup, dans beaucoup de nos produits, c'est l'huile de chanvre. Alors, il faut savoir que nous, on utilise de toute façon que des matières premières bio au maximum. Et l'huile de chanvre, on peut en trouver en bio, mais qui vient de Chine. Seulement, c'est complètement incohérent. Mais elle est aussi, par exemple, 5 fois moins chère. Alors après, c'est une histoire d'éthique et de cohérence. Nous, on a choisi effectivement de, si on peut trouver de l'huile de chanvre européenne ou française, c'est encore mieux, ben on le fait. Tant pis si elle est plus chère. Ça se répercute sur le prix du produit, mais ça se répercute aussi dans la qualité du produit. Et donc après, ben Gwen va vous dire, effectivement, elle a un cahier des charges qui est extrêmement précis pour les fournisseurs. Après, je ne cache pas qu'on rêverait d'aller rencontrer certains de nos fournisseurs, comme celui qui nous fait... on importe nous-mêmes des poudres indiennes directement avec le fournisseur, mais bon, on n'a pas encore eu la chance. Puis c'est après l'arrivée, à mon avis, qu'on puisse aller en Inde. Voilà, c'est pas pour tout de suite.
Non, alors après, donc par rapport à la difficulté, en fait, c'est pas forcément difficile de trouver des fournisseurs de matières premières cosmétiques. Ça, c'est même plutôt très facile. Mais effectivement, c'est vrai que quelqu'un qui va pouvoir proposer des matières premières qui sont éthiques avec des vraies valeurs, c'est autre chose. Au niveau du commerce équitable, par exemple, voilà, ils n'ont pas forcément tous les mêmes justificatifs. Même au niveau du commerce équitable, il existe déjà plusieurs labels, plusieurs certificats. Donc après, il faut regarder un petit peu chacun, justement par rapport, bah, typiquement le beurre de karité. Voilà, on peut trouver plusieurs grades différents dans le beurre de karité. Et chaque grade va répondre non seulement à une qualité de la matière première, mais aussi à les conditions en fait, dans lesquelles la récolte sera faite. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait vraiment vivre un village de femmes ou est-ce qu'au final, on esclavage toujours un village de femmes? Voilà. Donc ça, c'est des questions qui rentrent beaucoup en jeu. Donc, comme a cité Fanny, par exemple, pour l'huile de chanvre, c'est vrai qu'on pourrait prendre l'huile chinoise. Elle est bio, ce n'est pas un problème. Au niveau de l'odeur... On s'y retrouve un petit peu par rapport à l'huile de chanvre française. Au niveau du prix, non, clairement pas du tout. Et en termes qualitatifs, pas du tout. Et c'est vrai que c'est pas du tout cohérent d'aller se fournir en Chine quand on sait que la France est le deuxième producteur de l'Europe de chanvre. Enfin, c'est complètement incohérent, en fait. Donc voilà. Donc, tant qu'on peut, on essaye de choisir du, on va dire, local européen. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas non plus tout faire pousser en France. Enfin, y a des choses qui sont très précieuses, mais... Malheureusement, le territoire français ne permet pas du tout. Enfin, l'huile de coco en Bourgogne, ça ne prend pas très bien, par
exemple. C'est clair.
Quand on nous demande si le beurre de cacao est français, on répond que non, le cacaotier ne pousse pas très bien sur les terres bourguignonnes. C'est compliqué. Donc voilà. Et après, c'est vrai qu'aller à la rencontre de certains, on en rêverait parce que voilà, ça fait partie aussi quand même d'aller jusqu'au bout, finalement, d'aller toucher la plante avant son extraction, avant sa récolte, de pouvoir vraiment rencontrer les personnes. Mais s'il faut aller au Sénégal, au Burkina Faso, en Sierra Leone, en République Dominicaine, en Inde, j'en passe encore plein. Je pense qu'au final, on ne voit pas beaucoup au bureau.
C'est sûr.
Après, pourquoi pas, hein, mais je pense que le banquier va se rendre compte aussi que finalement l'argent des investissements produits est parti dans des voyages et va pas être d'accord non plus sur le principe.
En effet, ouais. Mais après, ça peut être effectivement des beaux projets à faire une fois de temps en temps entre vous, c'est sympa aussi. Enfin, pas en ce moment du coup. Justement, vous en parliez un peu tout à l'heure avec. Les problèmes de peau que vous avez rencontrés ou vos enfants. Du coup, on se demandait en fait pourquoi en fait les, enfin, comment on explique que les consommateurs aujourd'hui ont eu une vraie prise de conscience par rapport à la composition des produits et pourquoi ils sont beaucoup plus attentifs à ça qu'il y a 10 ans par exemple.
Ben, je pense que le bio a fait son entrée de toute façon dans les foyers français. Alors que ce soit du bio vendu en grande surface ou du bio dans des magasins spécialisés. Et surtout, on a appris, en fait, il y a eu de plus en plus de problèmes d'allergie, même chez des gens qui, a priori, n'avaient pas d'allergie. Mais oh, pourquoi d'un coup j'ai plein de boutons? Pourquoi, voilà. C'est tous les scandales qu'il y a eu, en fait, sur les conservateurs, sur le bisphénol dans les biberons. Enfin, les gens ont commencé à. Leur réveil a commencé à se faire comme ça, en fait, avec le gros scandale du bisphénol dans les biberons des bébés, en fait, il y a à peu près 10 ans. Que c'est sorti. Donc de là a découlé en fait la prise de conscience de tout le monde. Et puis effectivement une pandémie comme on a actuellement, ça n'a fait que renforcer. Nous on voit vraiment la différence. Hein. Ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille dans le milieu du naturel. On voit une vraie différence cette année. Et ouais. Je pense que ça a commencé par la nourriture. Enfin, ça a commencé par les objets du quotidien, puis par la nourriture. Et là maintenant on en vient en cosmétique. Et aux produits ménagers aussi, où on se rend compte qu'on s'intoxique avec des produits qui sont néfastes et pour l'homme et pour la planète.
Bah oui, on va revenir ensuite sur le confinement, mais c'est clair que les gros scandales, un peu même alimentaires, où ça fait vraiment écho chez les consommateurs. Quoi.
Je me permets une petite précision. Je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui fait que les gens sont plus regardants, c'est... L'hyperdocumentation qu'on a. On a un accès par rapport à il y a 10 ans à l'information qui n'a plus rien à voir. Alors, information et désinformation, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on avait moins d'infos, mais on avait aussi moins de désinfos. Aujourd'hui, on a accès aux deux et c'est ce qui fait que du coup, les gens se posent beaucoup de questions, sont beaucoup plus curieux, ont accès beaucoup plus rapidement à une information et du coup, ça a complètement changé leur état d'esprit. Donc, on est passé d'un produit bio où c'était un produit de niche élitiste très cher qui ne répondait pas forcément en plus à une attente qualité du client parce que c'était du bio et donc la modernité n'avait pas encore permis d'avoir par exemple des matières premières qui permettaient d'avoir un équivalent mais en bio alors qu'en 10 ans il y a eu une grande modernité qui s'est faite donc non seulement les gens ont accès à plein de choses, il y a les applications, il y a Luca, il y a toutes ces choses-là, 60 millions de consommateurs qui a énormément démystifié aussi la cosmétique et la maison. Il y a eu tous les scandales de médicaments, effectivement de bisphénol, etc. Et puis, je pense qu'il y a quand même l'avancée technologique aussi qui a permis de donner en fait aux gens un équivalent, mais version naturelle, qui fait que du coup, les gens maintenant se prêtent plus facilement au jeu d'un produit bio qu'avant où ils avaient vraiment l'impression qu'ils achetaient du bio et que ce ne serait pas efficace.
Oui, vous avez totalement raison de souligner ça parce que c'est hyper important. Et merci, ouais, c'est vrai. Du coup, pour revenir un peu sur vos produits, vous avez une gamme plutôt large, même si vous sortez des produits petit à petit et que j'imagine que ça demande une grande réflexion et beaucoup de préparation. On a rarement vu des cosmétiques solides pour les animaux, par exemple. Comment vous choisissez de créer un nouveau produit? Est-ce que ça répond à une demande de vos consommateurs ou c'est plus une envie de votre part?
Alors, il y a beaucoup une envie de notre part et après, évidemment, on fait quand même un peu une recherche. Typiquement, pour Dahu, c'est venu en fait et à la fois de consommateurs et à la fois de nous. Tout simplement parce qu'on a eu un jour un client qui nous a dit « J'ai lavé mon chien avec Druidej, avec ça sous la main, c'est pas dérangeant, c'est pas… » Et donc, on s'est dit, bah non, c'est absolument pas dérangeant. Et puis, en fait, l'idée a fait son chemin. Et mais oui, c'est vrai que c'est pas dérangeant, mais cette poudre-là, elle n'est pas spécialement adaptée aux chiens. Enfin, dedans, en plus, je crois qu'ils avaient utilisé celui qui est au beurre de cacao, donc qui n'est pas franchement non plus conseillé. Bon, il n'est pas non plus mortel, juste en shampoing. Hein. Faut pas non plus, prendre peur. Si certaines personnes l'ont fait, rassurez-vous, les animaux iront bien. Mais c'est parti, en fait, d'un constat aussi, c'est que les animaux ont vraiment des produits qui peuvent être particulièrement formulés avec des produits dangereux, voire toxiques. Et en fait, vous aussi, vous lavez l'animal avec vos mains. Donc, vous aussi, vous récoltez de ce produit toxique sur vous, non seulement sur l'animal, mais aussi sur vous. Et après, bah, vous avez la mousse qui va dans la terre, donc qui pollue aussi la planète. Donc, c'est parti, en fait, du constat d'un client qui nous a dit ça. Et moi, après, j'ai trouvé ça l'idée absolument géniale. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour les animaux parce que c'est. Voilà, c'est. Donc, les produits peuvent partir des fois de nous ou d'une réflexion qu'on nous a fait, mais c'est vrai qu'il faut déjà que le produit nous séduise. Il y a des produits, par exemple, on tarde à les sortir parce qu'on pense que ce n'est pas hyper nécessaire, mais on va finir par les sortir parce que les gens nous les réclament, mais on avait nos petites priorités.
Ok, mais c'est vrai que c'est assez unique, hein. Enfin, j'ai pas trop vu de produits comme ça ailleurs, donc c'est très très cool. Du coup, on se demandait, par rapport au confinement, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous avez pu observer des changements dans votre activité pendant et suite au confinement? Bah, du coup, là c'est reparti, mais pendant le premier confinement par exemple, est-ce qu'il y a eu un boom d'activité ou est-ce que vous avez vu beaucoup plus de clients ensuite? Enfin, est-ce qu'il y a des changements qui se remarquent?
Alors je dirais que on fait partie des chanceux, on fait partie de ces entreprises qui n'ont pas eu à souffrir effectivement du confinement et de la pandémie. Nous, on a pu continuer à vendre. On a continué à vendre aussi à nos magasins. Beaucoup de nos distributeurs sont des magasins de produits alimentaires ou de produits dits essentiels, donc n'ont pas été fermés. Et là, actuellement, ne sont toujours pas fermés non plus. Et nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de distributeurs supplémentaires, en fait. On a eu cette chance d'avoir on a un produit de nécessité. Alors qu'il n'y ait pas, on n'achète pas non plus un shampoing tous les 4 matins, c'est pas non plus, c'est pas de nécessité absolue, hein. On peut vivre sans shampoing, ça on est bien d'accord, mais les gens se lavent, continuent de se laver, et comme ils veulent du naturel, forcément, nous, on doit admettre qu'on en a bénéficié. Est-ce qu'on en aurait bénéficié autant sans la pandémie? Je pense que oui, en fait. Mais nous, on n'a pas perdu, en fait, de chiffre d'affaires, on n'a pas perdu de clientèle. Okay. On a une petite baisse et après c'est remonté et après ça a continué.
Oui, puis en plus, on va en parler dans notre émission, le confinement finalement c'est aussi une prise de conscience par rapport au fait que les maladies peuvent venir de partout et aussi des produits qu'on utilise quotidiennement. Donc peut-être qu'il y a des gens, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du DIY pendant le confinement, qui essayaient de fabriquer leurs produits. Donc je pense que tout ça, ça a renforcé un peu la tendance des produits comme les vôtres en fait.
En plus, nous, avec Gwen, on est vraiment hyper transparente sur la fabrication et sur d'où viennent nos matières premières, sur d'où... On est vraiment en totale transparence, on peut nous demander, on le dit, il n'y a pas de souci sur quelle ville, sur quel pays. Et le fait, je pense pour les clients, c'est important aussi de savoir que c'est nous qui fabriquons, nous, dans notre laboratoire. Vraiment, on suit toute la chaîne de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de... Voilà, du début jusqu'à la fin, on est là. Donc, on peut nous poser des questions et on peut chercher à savoir sur comment on emballe, le fait d'être transparente aussi a beaucoup, je pense, aidé par rapport à d'autres marques ou à d'autres secteurs ou à d'autres grands groupes où on ne sait pas forcément effectivement d'où ça vient réellement.
Vous voulez ajouter quelque chose, Gwen?
Je pense que le côté fait en France a été franchement renforcé avec le Covid. Parce que je pense que chaque pays, finalement, a eu sa prise de conscience et s'est dit « c'est peut-être le moment d'arrêter d'aller sur AliExpress tous les matins ». Voilà. Je pense qu'il y a eu quand même un… bien sûr, tout le monde est allé sur AliExpress au moins une fois dans sa vie. Tout le monde a acheté sur Amazon au moins une fois dans sa vie. Mais c'est vrai que le confinement, ça a quand même fait tilt à se dire « oui, en fait, finalement, on peut peut-être trouver par chez soi tout ce qu'il nous faut ». Et du coup, je pense que les gens ont eu cette prise de conscience. Après, il y a une prise de conscience qui a été conservée. Et il y a une autre partie de la population qui a tout de suite repris après ses habitudes. On l'a vu, hein, dès la sortie du confinement dans les supermarchés, quand on a discuté avec beaucoup de nos distributeurs de magasins vrac, ils ont vu la différence entre pendant le confinement et après le confinement. Ils ont vu vraiment la nette différence. Nous, je pense qu'effectivement, on fait partie des chanceux. On a pu conserver les postes de tout le monde. On a pu garantir la sécurité à tout le monde. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, je pense qu'on en a bénéficié. Ça a joué en notre faveur, ça n'a pas joué en notre défaveur. Et je pense que ça, c'est important. Ça montre quand même effectivement qu'il y a une prise de conscience supplémentaire s'il n'y avait pas eu le Covid. Après, je pense que de toute façon, la prise de conscience a été faite il y a déjà un moment. Donc, voilà, avec tous les scandales dont on parlait tout à l'heure, ça avait déjà aidé un petit peu.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, notre dernière petite question, c'était quels sont vos futurs projets? Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2021? Est-ce que vous avez des nouveaux produits en vue? Peut-être toucher une nouvelle cible ou voilà, des nouveaux points de vente autour de Dijon? On est curieuse de savoir comment ça va se passer pour vous après.
Je vais laisser Gwen répondre sur les futurs produits pour la laisser voilà, dire ce qu'elle veut bien dire, parce que c'est secret chez nous, donc je ne m'aventure pas.
On s'est dit qu'il faudrait augmenter la gamme de Dahu avec un shampoing pour pangolin, mais on n'est pas sûr qu'on a été.
Mais on n'a pas pu faire des tests en vrai, donc non, on a laissé tomber cette idée.
Voilà, désolée, c'est une mauvaise blague. Hein. Je rassure les auditeurs, il n'y aura pas de shampoing pour pangolin. Non, c'était prévu depuis un moment parce qu'on sait très bien aussi les retours qu'on a avec notre démaquillant solide actuel qui ne tient pas la chaleur. On a voulu jouer la carte de l'hyper puriste et du coup, bon, ça a sa contrepartie, c'est la chaleur, c'est un petit peu sa kryptonite. Donc du coup, dès le départ, on a dit qu'on travaillerait sur un nouveau démaquillant. Donc comme ça, on proposera en 2021, on espère avant l'été 2021, proposer donc un autre démaquillant. Comme ça, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus nettoyant, d'un petit peu plus riche, qui peuvent l'emmener n'importe où et qui sera vendu toute l'année, ce sera possible. Donc ce sera, voilà, on fait le petit frère du premier démaquillant. Voilà, et puis le temps attendu étant réclamé, après shampoing solide viendra. Naîtra normalement avant l'été 2021 aussi. On espère que la famille s'agrandira dans le temps. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on a eu, on a donc sorti deux produits là qui auraient dû sortir avec en juin. Et c'est vrai qu'ils sont sortis juste là. Donc du coup, ça recule un petit peu les autres sorties de produits, mais il va y avoir des nouveautés. Il y aura peut-être même d'autres, mais on va garder le secret pour l'instant.
Ok, bah super, de beaux projets en tout cas vont voir le jour alors. Bah, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que les filles, vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire qui vous seraient venues pendant l'échange?
Oui, je me demandais pourquoi avoir choisi de faire des cosmétiques solides plutôt que des cosmétiques qui restent basiques, on va dire liquides, mais tout en ayant des packagings aussi éco-responsables.
Fanny, je te laisse.
Ok, si tu veux. Alors, je ne suis pas la chimiste, mais ça, je l'ai appris avec Gwen. En fait, par exemple, un shampoing liquide, il est composé à 90% d'eau. Si vous mettez de l'eau, vous êtes obligé de mettre un conservateur parce que l'eau va vite se transformer avec plein de bactéries. En fait, c'est tout simple. Là, avec le shampoing solide, vous éliminez toute l'eau. Donc, déjà, c'est beaucoup plus écolo, en fait, dans la conception. Et après, ça nous évite de mettre un conservateur. Et surtout, en fait, vous n'avez que le principe actif. Là, vous avez vraiment des huiles et des poudres de plantes qui vont prendre soin de vos cheveux. Au lieu d'avoir 90% d'eau et, je ne sais pas, allez, 0,5% d'huile qui vont prendre soin des cheveux. Et après, ça nous permettait aussi, effectivement, d'être vendus en vrac, en fait. Donc, sans packaging du tout.
Et du coup, les produits solides, vous pouvez les faire combien de temps à l'avance et ça se périme en combien de temps aussi?
On va dire une durée de vie moyenne de 12 mois après fabrication. Et en général, je ne pourrais pas trop vous dire, mais parce qu'on n'est plus en flux tendu. Avant, au début, on était tout le temps en flux tendu. Quand on produisait, ça partait systématiquement. Maintenant, on arrive à faire de l'avance et du stock. Donc, je dirais qu'en moyenne, ce qui part, c'est ce qui a été fait il y a à peu près un petit mois, quelque chose comme ça.
D'accord.
n'est pas comme un savon saponifié, on n'a pas une cure par exemple de 6 à 8 semaines pour baisser le pH. On n'est pas sur les mêmes process, donc on peut se permettre de, même par exemple ce qui a été fabriqué il y a une semaine, l'envoyer et le vendre.
D'accord.
Voilà, merci encore et belle soirée.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.